Chers frères et sœurs, chers amis, dans 8 jours, le 17 juin, le mercredi à 20h15, nous comptons reprendre notre réunion de prière à l'église. Les conditions matérielles vont être bien différentes qu'au moment où nous avons été obligés de fermer notre lieu de culte, mais consolons-nous en nous disant que ce sera passager et que c'est déjà un progrès par rapport à la situation actuelle. Mardi prochain, il n'y aura donc pas d'étude biblique ni de témoignage sur notre site. Mais la prédication du mercredi soir y sera, donc celle faite à l'église, de manière à ce que ceux qui ne peuvent pas venir à la réunion pour le moment puissent malgré tout en bénéficier. Pour les prédications du vendredi et du dimanche, rien ne change pour l'instant, puisque nous ne reprenons pas encore les réunions à l'église ces jours-là. Avant notre prédication de ce soir, nous avons un beau témoignage montrant la nécessité de la persévérance dans la prière de la foi et les combats spirituels et autres auxquels même des fidèles peuvent être confrontés. Mais on y voit aussi la réalité et l'évidence de la puissance miraculeuse du Seigneur qu'il met en œuvre pour ceux qui pratiquent la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Voilà, je vous partage donc ce témoignage. À un moment particulièrement difficile, où l'opposition était forte, les adversaires nombreux et les tentatives de nuire aux serviteurs de Dieu multiples, Kirstin, la fille aînée du pasteur Gustafsson, tomba gravement malade. Elle était mariée depuis 2 ans et venait de mettre au monde son premier enfant, né en novembre 1951. Kirstin, qui avait 24 ans, commença à ressentir de fortes douleurs dans le ventre. Des examens montrèrent que la vésicule biliaire était atteinte. Mais à cause des soins à donner au bébé, elle ne voulut pas être hospitalisée et se contenta de prendre quelques médicaments prescrits par son médecin. Cependant, son état empira et Bertil, son mari, comme d'autres proches, s'inquiétait profondément. Elle demeura dans cet état jusqu'en mai 1952, où elle dut être hospitalisée. Pendant tout ce temps, on avait cessé de prier pour elle. Pour son père, la maladie était un sujet de prière quotidien, souvent dans le jeûne, et toute l'Église s'était jointe à l'intercession. Mais aucune amélioration ne s'était dessinée. Les douleurs s'intensifièrent de jour en jour. Tout son corps avait pris un teint très jaune. Elle mangeait difficilement et perdait continuellement du poids. Des troubles de la coagulation sanguine empêchaient une intervention chirurgicale. Après 3 semaines d'attente, les médecins décidèrent de tenter quand même une opération. En examinant la zone opératoire, le docteur Valgren, médecin-chef, put constater que les canaux permettant l'acheminement de la bile étaient obstrués par des végétations. Au cours de l'opération, l'état de la malade empira au point qu'il fallut l'interrompre. On put néanmoins faire des prélèvements qui s'avérèrent non cancéreux. Le pasteur Gustafsson alla trouver le chirurgien. Celui-ci lui dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour Kirstin. Elle a failli mourir pendant l'intervention, raconta-t-il. Et quand le pasteur lui demanda si un grand hôpital universitaire pourrait faire quelque chose de plus, le docteur Valgren répondit « Le médecin qui pourra aider votre fille n'est pas encore né. Je veux seulement vous préparer en vous disant que nous ne pouvons rien de plus pour elle. Mais, ajouta-t-il, vous savez certainement ce que vous pouvez faire. » C'était comme s'il signifiait au pasteur « Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique votre foi. » Le pas lourd, Jörg, se rendit au chevet de sa fille. Terriblement amaigrie, le teint jaune, elle était là, allongée dans son lit. Ses forces déclinaient, elle ne pesait plus que 37 kilos. Elle avait tellement mal qu'elle réclamait avec larmes les piqûres destinées à calmer pour un court moment sa souffrance. Elle était si faible qu'elle ne pouvait plus soulever sa tête de l'oreiller. Elle ne pouvait plus manger aucune nourriture solide, seulement avaler quelques aliments liquides. Plus tard, le même jour, le pasteur devait partir pour une grande convention au sud de la Suède, où il serait un des principaux orateurs. Il se mit à genoux à côté du lit et pria. Une pensée le frappa. C'était peut-être la dernière fois qu'il voyait sa fille en vie. Avec un terrible sentiment d'impuissance, il quitta l'hôpital et rentra à vélo. Pendant la convention, il participa comme d'habitude, prêchant avec la même puissance. Là aussi, on pria pour la guérison de sa fille. Puis un jour, il reçut un appel d'urgence de l'hôpital. S'il voulait voir Kerstin une dernière fois avant qu'elle meure, il fallait qu'il vienne tout de suite. Après avoir prêché le soir dans un lieu tout proche, il prit le train de nuit pour rentrer. Là, dans le train, assis dans un compartiment étroit, il sentait le découragement l'envahir. Jörg Gustafsson aimait beaucoup sa fille. Tant de souvenirs surgissaient dans son esprit. Tout son être était un immense cri à Dieu. Il pensait à ses adversaires. Il comprenait qu'il se réjouissait de ses difficultés. Il savait que certains avaient même fait allusion à la maladie de sa fille comme étant un jugement de Dieu sur lui. « Dieu, cria-t-il, il faut que tu interviennes !» Lui, qui d'habitude entamait si facilement la conversation avec les autres voyageurs, ne disait rien. Il luttait dans la prière. À ce moment-là, au plus profond de son désespoir, il eut une vision. Il vit le Seigneur Jésus marcher à sa rencontre. Sa première pensée fut alors « Je vais demander au Seigneur si je ne suis plus son serviteur, si j'ai perdu mon ministère. » Le Seigneur lui répondit « Je te donnerai une preuve. Si ta fille est morte lorsque tu arriveras, tu iras à la morgue et tu la ressusciteras d'entre les morts. Si elle vit, tu poseras seulement les mains sur elle et je la guérirai. » Il arriva chez lui tôt le matin, et se rendit rapidement à l'hôpital. Poussant la porte de sa chambre, il la vit, tel un squelette, presque inconsciente. Son teint était plus jaune que jamais, elle avait l'air plus morte que vivante. « Kerstin, » dit Jörg. Elle ne réagit pas. « Petite Kerstin, c'est papa. Sais-tu qu'il est le serviteur de Jésus-Christ ?» Alors ses yeux s'ouvrirent et elle répondit d'une voix faible. « Papa, j'ai tout oublié, mais je me souviens que lorsque j'étais petite, tu servais Dieu. » « Oui, Kerstin, et je le sais encore. Maintenant, papa va poser ses mains sur toi et tu guériras, tu vivras. » « Non, papa, je vais mourir. » « Non, tu vas vivre. » « Non, papa, je vais mourir, ils me l'ont dit ici. » « Non, ma petite, tu vas vivre. » À ces mots, il se mit à genoux à côté du lit et commença à prier. « Jésus, Jésus, Jésus. » Et il continua à répéter le nom de Jésus. 100 fois. Peut-être 200 fois. Au bout d'un moment, il eut à nouveau une vision. Il vit le corps de sa fille. Il vit la peau se retirer, les muscles s'écarter, mettant à nu les intestins. Ensuite, il vit une main trouée par des clous, nettoyer les canaux biliaires obstrués, puis tout remettre en place avec une grande délicatesse, et tout refermer une fois l'opération terminée. Alors le pasteur regarda le visage de sa fille. « Maintenant, Kerstin, tu es guérie, » dit-il, alors que les larmes coulaient sur ses joues. Elle eut un faible sourire et murmura « Merci, papa ». À cet instant même, Bertil, son mari, traversait à pied une grande place de la ville. Soudain, ce fut comme si un courant électrique traversait son corps, et il entendit une voix au-dedans de lui qui disait « Maintenant, la maladie de Kerstin est arrivée à un tournant. » Le pasteur, pour sa part, rentra chez lui. Un peu plus tard, il devait rencontrer un des médecins pour entrevoir la possibilité d'une autre opération de Kerstin dans le but de calmer ses souffrances. Mais 2 heures avant le rendez-vous prévu, le médecin appela « Je voulais seulement dire que le pasteur n'a pas besoin de venir, dit-il. » « Il y a eu un changement remarquable chez votre fille. Ses fonctions sont redevenues normales. La bile coule, les reins fonctionnent et tout a l'air incroyablement bien. » « Oui, dit Jörg Gustafsson, je le sais. » « Comment ça, vous le savez ?»« J'ai prié. J'ai exposé son cas au Seigneur Jésus. » Stupéfait, le médecin écouta le récit du pasteur avant de conclure. « Oui, c'est vraiment remarquable ce qui s'est passé. » Il n'y avait pas grand espoir pour elle. Le lendemain, après sa première nuit de bon sommeil depuis très longtemps, la température de Kerstin était descendue de 40 à 37 degrés. Celle-ci n'osait pas croire que c'était vrai. Elle avait tellement vécu dans la certitude que tout était fini qu'elle était maintenant assaillie par le doute. Peut-être le thermomètre était-il défectueux, ou bien peut-être allait-elle rapidement rechuter. Désespérée, elle tendit la main pour saisir sa Bible sur la table de nuit. Elle ouvrit le livre saint, là où son pouce arrêtait les pages, et lut un seul verset. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Elle reposa le livre. Un profond sentiment de joie et de certitude avait chassé le doute. Le matin même, elle mangea 2 sandwichs aux crevettes, sa première nourriture solide depuis 5 semaines. Plus de 30 ans plus tard, alors que le pasteur Gustafsson était sur son lit de mort, il rappela à sa fille cette guérison miraculeuse. « Est-ce que ça a tenu, Kerstin ?» demanda-t-il. « Oui, papa, répondit-elle. Je n'ai plus souffert une seule fois de cela depuis ce jour-là. » Voilà, frères et sœurs, un magnifique témoignage, mais qui peut effectivement nous faire poser des questions, tout en nous rappelant ou en nous apprenant bien des choses. D'abord le fait qu'on peut être un fidèle serviteur de Dieu, une fidèle servante du Seigneur, et être attaqué sans que sur le coup on discerne immédiatement pourquoi il en est ainsi. Et il peut en résulter un sentiment de culpabilité, un esprit d'accusation. Bien sûr, il faut se mettre devant Dieu, il faut examiner son cœur, sa vie. Mais ensuite, il est important de repousser les insinuations de l'ennemi, de l'accusateur des frères. Puis une deuxième chose, je crois, qui ressort là, c'est qu'il est important tout au long de cette épreuve, de ne pas se laisser détourner de notre service, de notre ministère, de notre vocation. C'est dans le chemin de l'obéissance et de la fidélité que s'accomplira aussitôt ou tard la belle promesse de notre Seigneur et qu'il manifestera son secours. Et puis bien sûr, une troisième chose qui ressort là aussi, c'est cette nécessité de la persévérance jusqu'au bout, accompagnée de ferveur. Combien de fois, dans la parole de Dieu, nous voyons que c'est au dernier moment, à la dernière extrémité, que le Seigneur s'est manifesté. Et c'est lui qui en a été d'autant plus glorifié. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il fait souvent ainsi. Mais que, quand le Fils de l'homme viendra, il puisse trouver de la foi, spécialement la prière de la foi. Et puis encore, on voit bien qu'au travers de cette terrible épreuve, le Seigneur a fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, et même de beaucoup d'autres, même si ce n'était pas visible quand on se trouvait au cœur de l'épreuve. Soyons donc convaincus, et restons-le, qu'il en est ainsi et qu'il en sera ainsi pour nous aussi, pourvu que nous restions fermes dans la foi, nous appuyant sur la promesse de sa parole et continuant à lutter avec conviction dans la prière. Voilà, frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole de Dieu maintenant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16. Ce sera notre première lecture. Nous allons tout d'abord prier. Nous te remercions, Seigneur, pour les belles choses que tu as accomplies et que tu accomplis encore par ta puissance et par ta grâce. Et nous te bénissons pour l'œuvre que tu fais en faveur de ceux qui se confient en toi. Te remercions parce que tu exauces encore et toujours puissamment la prière de la foi. Et merci parce que tu veux encore chacun d'entre nous, nous raffermir dans cette foi en tes promesses, dans cette foi dans les précieuses et puissantes assurances que tu nous donnes. Sois glorifié notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous l'avons dit donc dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et au verset 9, la parole du Seigneur Jésus. « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » Je relis. « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » Et voici un texte qui correspond certainement à quelque chose d'important et même de vital pour tout véritable croyant. Si nous sommes réellement nés de nouveau, cela veut dire en particulier que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour pour Dieu, bien sûr, et l'amour pour notre prochain, d'une façon générale, et l'amour pour nos frères et sœurs en Christ en particulier. Mais aussi l'amour pour nos semblables, l'amour pour tous les hommes, et même pour nos ennemis, avec le secours particulier du Seigneur pour cela. Il nous invite à prier pour eux, par exemple, puisque eux aussi ont une âme éternelle à sauver. Tout croyant normal doit être conscient de cette nécessité de l'amour des âmes en lui. Et si donc nous avons affaire à un besoin général, pour tout croyant, comme il n'était d'ailleurs pas difficile de le pressentir, il nous faut passer donc à la suite de notre méditation, avec des questions. Qu'est-ce que l'amour des âmes? En quoi cela consiste-t-il pratiquement? Quelles sont les manifestations et les preuves d'un véritable amour des âmes? N'est-il pas possible de se tromper au moins partiellement sur ce point? Pour ma part, je sais fort bien que tout un temps, j'ai été influencé par un certain genre de livres, de littérature qui nous parlait de grands hommes de réveil, d'abondantes moissons d'âme, entre guillemets, de gens qui avaient l'air de se convertir en grand nombre, de rapports de réveil avec des résultats extraordinaires, toutes sortes de choses semblables. Et ce sont de belles choses, évidemment, ce sont de beaux témoignages, de belles expériences. Mais du coup, eh bien, j'ai pu avoir l'impression que le travail de salut des âmes se pratiquait de la manière suivante. Voilà, aller chercher des gens dans la rue ou ailleurs, les amener à l'assemblée pour les conduire au baptême, en faire des membres d'assemblée, et puis les intégrer eux-mêmes dans le travail pour Dieu, qu'ils soient ainsi maintenus dans cette structure, si je peux dire, cette organisation peut-être même. Et bien sûr, c'est très schématisé, c'est un peu exagéré, mais il y a quand même quelque chose de semblable. Et que c'est vrai qu'il y a toute une partie du travail qui correspond à cela. On ne peut qu'approuver la part de structure et d'organisation de l'œuvre de Dieu pour une meilleure efficacité pratique. Mais au-delà de tout cela, il a quand même bien fallu un jour que je réalise que j'oubliais le principal, c'est-à-dire l'amour des âmes. Plus exactement, cette amitié selon Dieu qui est d'un si grand prix et un si grand moyen de salut. Et nous pouvons poser cette définition toute simple pour nous. L'amour des âmes consiste à nous faire des amis de ces âmes pour les sauver. L'amour des âmes consiste à nous faire des amis de ces âmes pour les sauver. Un premier point, un premier chapitre, après cette introduction, consiste à nous souvenir qu'avoir des amis dans le Seigneur, c'est une preuve de véritable vie spirituelle. Une preuve de qu'on est véritablement spirituel. Il est possible d'être dans une assemblée, d'y avoir des frères et sœurs, des compagnons même, de service, d'œuvre, de combat, mais de ne pas avoir d'amis dans le Seigneur. C'est possible. On peut être liés les uns aux autres par divers liens, ceux du devoir chrétien, ceux des habitudes de l'assemblée, ceux du service effectué en commun, ceux d'une doctrine commune, ceux de façon de faire semblable, les liens d'un but, d'un objectif commun, des activités faites en commun avec d'autres. Mais qu'on n'ait pas vraiment creusé l'aspect de l'amitié profonde, fraternelle, est vrai entre membres de l'Assemblée. Alors certains vont dire, mais ce n'est pas là le sujet de notre message, nous parlons de l'évangélisation, de l'amour des âmes, et nous ne voulons pas nous perdre dans un sentimentalisme déplacé. Et pourtant, nous sommes en plein dans notre sujet. Et l'apôtre Jean, qu'on ne saurait suspecter de sentimentalisme excessif, a écrit vers la fin de sa vie les paroles suivantes, à la fin d'une de ses épîtres, c'est dans la troisième épître de Jean, verset 15, « Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. » Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Et cet apôtre, quand il a écrit cela, était quelque part au fait de sa vie avec le Seigneur. Il était un exemple remarquable pour chacun de nous. Mais que disait-il? Que dit-il là? Il disait qu'il avait des amis là où il se trouvait. Mais ces gens étaient des frères et sœurs, de toute évidence. Cependant, il ne les appelle pas frères ici, mais amis. Et il insiste avec force sur cette question qui est importante. De plus, il avait aussi des amis dans le lieu où il envoyait sa lettre. Et de plus, c'était de véritables amis, puisqu'il tenait à ce que chacun d'entre eux soit salué avec des égards particuliers, justement à cause de cette amitié. Ainsi pouvons-nous affirmer, sans crainte, que ce grand homme de Dieu avait pour objectif de lier, de maintenir de profondes amitiés là où il passait, et que c'était pour lui un moyen puissant de s'attacher aux frères et sœurs, ainsi que de gagner des âmes et de les garder pour l'éternité. Notre deuxième point nous rappelle aussi qu'avoir des amis dans le Seigneur nous permet de bien leur montrer la voie du salut. dans Proverbes, chapitre 12, au verset 26. Il est écrit « Le juste montre à son ami la bonne voie. » Le juste montre à son ami la bonne voie. Et ceci nous parle de cette nécessité de montrer la bonne voie aux perdus et de leur annoncer l'Évangile. La nécessité, bien que ce soit effectivement les justes qui le fassent. Méditez cette prière de Joseph Alain, qui était un pasteur anglais du XVIIe siècle. C'est une prière pour les âmes perdues. « Seigneur, je me sens tellement inadéquat pour une telle tâche. Par quels moyens rendrai-je mon cœur, aujourd'hui si endurci, sensible à ce que tu veux me faire ressentir ? Irai-je parler à une tombe et m'attendre à ce que les morts sortent et obéissent à ma voix ? Pourrais-je parler aux rochers et aux montagnes et les faire écouter mes arguments ? Rendrai-je la vue aux aveugles ? Depuis le commencement du monde, personne n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui pourrait rendre la vue à des aveugles de naissance. Mais toi, Seigneur, tu le peux autant que transpercer le cœur le plus fermé. Je m'avance au nom du Seigneur des armées, comme David devant Goliath, pour combattre non pas contre les hommes de chair et de sang, mais contre les forces du mal qui œuvrent en ce monde. Seigneur, choisis mes paroles, les mots que je prononcerai. Choisis les armes dont je me servirai. Et quand je plongerai la main dans mon sac pour en tirer une pierre polie que je lancerai, fais qu'elle atteigne sa cible et s'enfonce profondément, non pas dans le front du pécheur non converti, mais dans son cœur. Force-le à se genouiller comme Saul de Tarse. Seigneur, viens à mon aide. Comment pourrais-je l'abandonner ainsi à son sort ? S'il ne m'écoute pas, je prie néanmoins que toi, tu m'écoutes. Je prie qu'il puisse vivre un jour dans ta lumière. Seigneur, sauve-le, sinon il périra. Mon cœur saignerait si je voyais sa maison en flammes alors que lui et sa famille sont profondément endormis dans leur lit. Aussi mon âme n'est-elle pas troublée à l'idée qu'il puisse être perdu pour l'éternité ? Seigneur, fais preuve de compassion, sauve-les de l'incendie. Démontre ta puissance et agis pour les sauver. Détruis le péché, mais sauve l'âme du pécheur. Amen. Et nous voyons là aussi combien l'amour des âmes est présent, actif dans cette prière, spécialement dans la dernière partie, comme puissant argument et excellente motivation pour une telle supplication. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est cette nécessité d'annoncer la bonne voie, mais cette autre grande nécessité qui ressort de notre verset de Proverbe 12 que nous venons de lire, se faire un ami ou une amie de cette personne à qui nous voulons montrer la bonne voie, c'est ce qui nous aidera à avoir le plus de succès. Et un véritable ami, pas une amitié superficielle ou d'intérêt immédiat ou passagère. Si nous ne faisions pas ainsi, en quoi serions-nous différents de ces religions que Jésus dénonçait comme courant la terre et la mer pour faire un prosélyte et faisant finalement un fils de la géhenne deux fois plus qu'eux-mêmes ? Il y a des quantités de sectes qui vont de porte en porte, qui accrochent les gens dans la rue pour en faire des membres de leur mouvement. Et si nous allons d'une porte à l'autre avec l'objectif de ramener simplement les gens à un texte ou à une tente ou un lieu de culte, en prenant bien soin de déballer notre boniment, nous risquons fort de ne pas valoir beaucoup mieux qu'eux. Mais si nous y allons avec le désir d'établir un contact humain, de nous intéresser personnellement à celui ou à celle qui va se présenter en nous, d'établir une amitié, avec toujours bien sûr l'objectif de leur salut, alors nous avons beaucoup plus de chances de parvenir à un bon résultat. Et c'est vrai que quelque part, ça va nécessiter un investissement plus conséquent, la recherche d'un dialogue plus personnel, plus affectueux, l'apport d'un témoignage plus personnel aussi, l'intérêt réel pour la situation de cette personne, le désir de comprendre la manière dont la personne voit les choses, le fait de vouloir comprendre ses problèmes, le désir de lier un contact dans cet état d'esprit, aller plus loin avec l'établissement donc d'une amitié vraie, c'est cet objectif-là. Et c'est ainsi qu'on parviendra à être ce juste qui montre à son ami la bonne voie. Et je saisis l'occasion de la fête des mères qui vient de passer pour rappeler combien justement une maman, à cause de cet amour, de cette relation précieuse qu'elle a avec son enfant, peut être un moyen puissant de salut pour cet enfant justement. avoir une influence puissante pour garder et conduire ses enfants dans la foi et dans le bon chemin. On raconte l'histoire de cette enseignante de deuxième année du primaire qui avait parlé à ses élèves des aimants et de ce que font les aimants. Et le lendemain, dans un petit test écrit, elle a inclus cette question « Mon nom contient le son « en » et fait penser à l'amour. Je ramasse des choses. Qui suis-je ?» Quand les élèves lui ont remis leurs feuilles, elle a été étonnée de constater que près de 50% d'entre eux avaient répondu en écrivant le mot « maman » au lieu de « aimant ». Et c'est vrai que les mamans ramassent des choses, mais elles sont bien plus que des aimants, ramassant des vêtements, des jouets dans la maison. Même si les mamans sont disposées de faire de telles choses, leur appel est bien plus noble que cela. Une bonne mère aime sa famille. Elle crée l'atmosphère où chaque membre se sent accepté, en sécurité, compris. Elle est là aussi quand les enfants ont besoin d'une oreille attentive, d'une parole réconfortante, d'une étreinte chaleureuse ou d'une main douce sur un front fiévreux. Et pour la maman chrétienne, sa plus grande joie est d'enseigner à ses enfants à croire en Jésus et à l'aimer comme leur sauveur. Et ce genre de mère mérite d'être honorée, pas seulement en un seul jour spécial de l'année, une fête des mères par exemple, mais chaque jour. Et cette reconnaissance devrait porter plus que des mots. Elle devrait se manifester par le respect, la prévenance et des gestes d'amour. Quelqu'un disait « Les mères pieuses ne font pas qu'élever leurs enfants. » Elles les élèvent aussi vers Dieu. Je répète, les mères pieuses ne font pas qu'élever leurs enfants, elles les élèvent aussi vers Dieu. Vous savez, quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous y voyez que plusieurs portraits de mères admirables sont offerts. Même si aucune n'était parfaite, nous voyons que leurs histoires sont quand même remplies d'enseignements. La mère de Moïse n'a pas hésité à enfreindre les lois qui avaient été promulguées par Pharaon pour protéger son enfant. On se souvient qu'au temps de Salomon, une mère désespérée a pris le parti d'abandonner son enfant plutôt que de le voir coupé en morceaux. Et Paul exprima son admiration pour la foi profonde de la grand-mère et de la mère de Timothée. Donc, il en parle dans 2 Timothée 1, verset 5. Là, il parle de cette foi puissante que la grand-mère Loïs a transmise à ta mère Eunice, qui à son tour te l'a transmise. Alors c'est vrai ce qui est frappant concernant Eunice, donc sa propre mère était déjà croyante, et ça nous rappelle que les enfants ne peuvent pas hériter de la foi de leurs parents. Dieu n'a pas de petits-fils, il a des fils et des filles. Mais malgré tout, cette foi peut être transmise de génération en génération, grâce à l'influence bénéfique de parents croyants. Et là encore, c'est l'histoire d'un petit garçon qui avait un peu oublié le verset qu'il devait réciter lors de la représentation annuelle de l'école du dimanche ou du mercredi. Il s'est tourné vers sa mère qui était assise au premier rang pour demander son aide. Et elle lui souffla les premiers mots « Je suis la lumière du monde !» Aussitôt, le petit rayonnant s'empressa de déclamer « Ma maman est la lumière du monde !» Alors, nous pouvons sourire de son innocence, mais en fait, chaque maman inscrit dans le cœur de ses enfants une marque que le temps ne saura effacer. Et c'est un homme de Dieu qui a dit « C'est avec l'âge que les hommes se mettent à réfléchir à l'influence de leur mère et se rendent compte combien leur destinée a été formée par les gestes, les paroles et les émotions de leur mère. » Et un autre serviteur de Dieu ajoutait si vous avez eu la chance d'avoir une mère affectueuse et croyante, vous jouirez de ce privilège le reste de votre vie. Par contre, si votre mère vous a négligé tout le temps de votre enfance, ce que vous avez souffert vous collera à la peau. Que ce soit en bien ou en mal, il semble difficile d'échapper à la marque d'une mère. Vous qui êtes maman, quelle marque allez-vous imprimer dans le cœur de vos enfants? Que Dieu vous bénisse en cela. Et puis j'en reviens maintenant à notre texte de départ, à notre sujet de départ. Donc se faire des amis. Et j'en arrive à lire un autre passage de l'évangile de Luc au chapitre 11, du verset 5 à 8, une histoire d'amis là encore. Une histoire d'amis, vous verrez que ça ne se passe pas forcément tout seul, les histoires d'amis. Luc chapitre 11, verset 5, il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, nos enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Vous voyez bien que c'est une question d'ami, hein, le mot ami revient là-dedans 5 ou 6 fois. Hein, donc, voyez un ami qui arrive de voyage, chez son ami, sans rien dire, sans prévenir. Et ce dernier va chez un autre ami chercher du pain parce qu'il est pris au dépourvu. Et ça ne se passe pas tout seul. Et ça nous enseigne que les amis, ce n'est pas toujours facile non plus. Les amis, ça oblige à être disponible, à toute heure du jour et de la nuit. Les amis, ça fait que la tranquillité, le confort du foyer risque parfois d'être interrompu, ainsi que le lit douillet peut-être. Les amis, ça oblige à donner, à leur donner, à se donner. Cette amitié fraternelle, cette amitié en vue du salut, voilà, c'est quelque chose qui nous occasionne aussi des dérangements, qui nous occasionne aussi des sacrifices, et il faut que nous en soyons conscients. Il s'agit là de quelque chose de biblique et d'un puissant moyen de salut. C'est le moyen par lequel Dieu agit pour sauver des âmes. Et puis, une quatrième grande remarque, et nous en revenons maintenant à notre texte de départ, Luc chapitre 16 au verset 9, c'est qu'avoir des amis dans le Seigneur, c'est malgré tout quelque chose qu'il faut gagner. C'est quelque chose qu'il faut gagner. Quand il est dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes ». Voilà. Si nous voulons imiter Jésus, eh bien, il nous faut prêter attention à ce qu'il a dit un jour. Hein. Et là, je vous lis simplement une transcription du passage de Luc, chapitre 6, au verset 31. Lorsque Jésus dit « Demandez-vous ce que vous aimeriez recevoir des autres, puis offrez-leur précisément cela. Prêtez sans jamais rien espérer recevoir en retour. Je vous le promets, vous ne regretterez jamais votre décision. » C'est une transcription, donc. Mais ça nous donne quand même le sens. Aimer les autres, sans forcément espérer être aimé en retour, au moins dans un premier temps. Être généreux envers ceux qui, peut-être, ne nous remercieront pas. Ou pas beaucoup. Pardonner à ceux qui refusent peut-être de nous pardonner. C'est vrai. Se dévouer, même si personne ne se rend compte de ce qu'on fait. C'est ça que Paul a appelé la vocation céleste et que le Seigneur nous demande de suivre aussi. Vous savez, aimer les autres, c'est en premier une affaire de choix. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Un choix qui nous coûte cher, c'est vrai, en temps, en argent, en estime de soi. Mais vous savez, on ne va pas rentrer dans une église un dimanche matin et en ressortir soudain rempli d'amour pour notre prochain. Ça ne s'achète pas au supermarché. Vous n'avez aucune formule magique qui va faire jaillir l'amour divin de notre cœur. Si nous voulons aimer les autres comme Jésus les a aimés, eh bien, il faut quand même prendre notre croix. Il faut crucifier notre égoïsme naturel. Et il faut que ce soit les autres qui viennent dans nos préoccupations et même au centre de, nos préoccupations. Et puis c'est de cette manière-là, en allant aussi chercher, oui, les gens qui souffrent, qui sont désespérés, qui ne peuvent s'empêcher de mal agir, lorsqu'on les a trouvés, de rester près d'eux jusqu'au moment où ils seront rachetés par l'amour divin, transformés par sa grâce, qu'ils se mettront à marcher dans le droit chemin. C'est ça, vivre pour les autres. Et c'est ça aussi, se faire des amis. Se faire des amis qui pourront nous accueillir un jour dans les tabernacles éternels. C'est vrai. Le but du tabernacle éternel, du ciel de gloire pour l'éternité, c'est toujours là. Ne perdons pas ce but de vue. Les moyens pour se faire de tels amis, ben voilà, les richesses injustes dont nous disposons chacun. Pourquoi dit-on injuste ? Bien parce qu'on ne les dispose pas tous de la même façon. Les uns ont plus de temps que d'autres. D'autres ont plus de santé et de force que les précédents. D'autres peuvent avoir plus de sensibilité, de subtilité. D'autres plus d'argent, plus de moyens. D'autres plus de connaissances, plus d'éloquence. D'autres de meilleures occasions. Il y a ainsi beaucoup de richesses injustes. Mais nous en avons chacun notre lot. Il ne faut pas chercher à comparer avec le voisin. Mais il faut au contraire agir pour savoir combiner judicieusement ces richesses injustes pour arriver au résultat. Gagner des âmes à Christ au travers d'une bonne et solide amitié qui en sera ainsi le moyen. Dieu nous confie ces richesses, pour un temps, dans ce but primordial, se faire des amis pour le ciel. Et puis notre cinquième point, cinquième grand point, c'est de se rappeler aussi que les amis dans le Seigneur, avoir des amis dans le Seigneur, c'est quelque chose de durable. Dans Proverbes chapitre 17, au verset 17, il est marqué « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Voici encore un témoignage, et je ne suis même pas sûr que c'est un témoignage chrétien, mais il est malgré tout très intéressant. 65 euros par mois, c'est tout ce dont peut disposer pour vivre Marija Zlatik, retraitée serbe de 86 ans. Elle vit donc plus que modestement dans une masure sans chauffage de la région de Boljevac, zone montagneuse de l'est de la Serbie. Si modestement, il faudrait même dire misérablement, que des amis se chargent de lui apporter des vivres et du bois pour le feu. Fidèles au poste depuis des années, ils font régulièrement 2 heures de marche depuis le village le plus proche pour rejoindre à travers la montagne le hameau où habite Marija. Mais l'an dernier, celle-ci a reçu une nouvelle aussi officielle qu'incroyable. Elle venait d'hériter de 611 000 euros, légués par son mari décédé en Australie 2 ans plus tôt. En 1956, Momcilo Zladik, alors menuisier, avait émigré en Australie avec sa jeune épouse. Mais 2 ans plus tard, Marija était rentrée en Serbie afin de soigner sa mère malade. Elle avait ensuite choisi de rester vivre au pays. Les années passant, Momcilo Zladic avait bien réussi, notamment dans l'élevage bovin. Plus de 600 000 euros, voilà qui mettait la vieille dame à l'abri de besoins pour le reste de ses jours. Elle lui promettait même une fin de vie dorée. Mais Marija en a voulu autrement. Résolue à ne rien changer dans sa manière de vivre, et la tête sur les épaules, elle a choisi de donner cet argent à ses voisins qui venaient l'aider depuis si longtemps. « Je n'ai pas besoin d'argent. Eux, oui, ils en ont besoin. » Ma retraite de 8 000 dinars, c'est-à-dire 65 euros, me suffit largement, a-t-elle déclaré au quotidien serbe Večernje Novosti. Il est des gestes, des attitudes, des manières d'être et de faire tellement opposées au courant de l'époque, aux pensées d'une société, qui font naître chez beaucoup des sentiments et des réactions de stupéfaction incrédule, d'admiration, d'incompréhension mêlée, et sans doute chez plusieurs, d'ironie apitoyée. Le geste de Marija envers ses voisins, et leur geste persévérant envers elle, est un peu comme un miroir où peut se regarder notre société, de plus en plus gangrénée par la primauté de l'argent, devenue valeur suprême, et par ses inévitables avatars que sont le matérialisme et l'égoïsme. Ces gestes sont aussi une fenêtre ouverte sur un autre monde, un monde de désintéressement, d'altruisme, d'authentique solidarité, de vraies valeurs. Un monde d'humanité où il fait bon vivre. Quel inestimable héritage nous laisse Marija Zladic. Je ne sais pas ce que croient exactement Marija Zladic et ses voisins amicaux, mais en même temps, quel exemple! Et si des personnes de ce monde peuvent montrer pareil désintéressement, pareil esprit de sacrifice, humble, pareil dévouement, pareil amour, quelle raison supplémentaire de le faire et d'agir de même pour des croyants qui veulent se faire des amis, non seulement pour le temps, mais encore pour l'éternité. Et c'est là, nous le savons, que se fait la différence entre vrais et faux amis. Justement, quelque chose de durable. Parce que les faux amis s'écartent au moment de la difficulté, tandis que les autres se rapprochent et s'attachent. Déjà dans le passage précédent, Luc 16, verset 9, il était question d'amis, non seulement pour le temps, mais pour l'éternité. Nous accueillons dans les tabernacles éternels. Nous savons bien, si nous voulons réfléchir, que tout le reste nous sera enlevé. Toutes ces richesses injustes dont nous avons parlé. Il nous est dit qu'elles viendront à nous manquer. Et même tous les autres contacts de notre entourage. Mais cette amitié bénie sera céleste et éternelle. Combien elle est importante, cette amitié selon Dieu. Et puis enfin, avoir des amis dans le Seigneur, c'est quelque chose de fondamental. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 7, l'apôtre nous invite à faire tous nos efforts pour acquérir, développer et ajouter les unes aux autres les choses vraiment importantes et nécessaires. Et dans la liste qu'il nous donne là, que cite-t-il en dernier ? Il dit « ajouter à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour ». L'ancienne traduction seconde marquait « ajouter à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité ». Voilà quelque chose qui peut paraître surprenant lorsqu'on y réfléchit un peu. Pourquoi parler, faire une différence quelque part, en tout cas dans l'appellation, entre l'amitié fraternelle et l'amour, les deux derniers points ? Mais là encore, pour montrer l'importance de notre sujet d'aujourd'hui, cette amitié fraternelle, citée donc à part. D'ailleurs, il est écrit aussi, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, encore une fois, cette même et profonde amitié, que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas à l'amour pour la parole de Dieu avant tout qu'il connaîtra que nous sommes les disciples du Seigneur. Et pas non plus aux miracles, même si évidemment, ils sont précieux et importants. Ni même à la bonne doctrine, même si elle est très nécessaire. Ni même peut-être aux grands rassemblements qui peuvent avoir aussi leur utilité. Toutes ces choses ont leur place. Les choses peuvent être très bonnes, mais pour que le monde si aveugle et trompé par ailleurs reconnaisse la réalité de la vie divine en nous, le grand critère, c'est celui de cet amour mutuel, fraternel, réel, dont il est question là. Alors en conclusion, quelles que soient les difficultés, les obstacles qui se dressent et se dresseront sur notre chemin pour annoncer l'Évangile, sauver des âmes, voici donc la voie royale. Il est vrai que la nuit vient où personne ne peut travailler. Il est vrai aussi, malgré tout, que c'est de cette façon que l'amour des âmes aura toute son efficacité jusqu'au bout. Que donc, pendant ces jours prochains, nous puissions avoir cela à cœur. Nous faire des amis dans le Seigneur, en nous rappelant que c'est quelque chose d'exigeant, réalisant qu'il faut les gagner, en nous souvenant que c'est quelque chose de fondamental, en ayant bien saisi que c'est là le bon moyen, le meilleur moyen de leur annoncer la voie du salut pour que leur cœur y soit ouvert. Et ainsi le Seigneur bénira nos efforts dans ce sens pour l'éternité. Et ainsi nous aurons en nous aussi cet amour des âmes véritables et approuvées par lui. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es celui qui encore par ta parole nous indique ce qui est précieux, ce qui est fondamental à ton avis et selon ta volonté. Et c'est pour cela que nous voulons nous aussi nous y attacher, nous voulons aussi nous tenir devant toi et te prier, Seigneur, pour que cette bonne œuvre puisse se faire en nous et que tu puisses aussi nous conduire dans le bon chemin et vers les personnes envers lesquelles tu veux que cet amour puisse être déployé. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, et béni soit ton nom. Béni sois-tu pour ta grâce que tu fais reposer sur chacun d'entre nous. Sois loué, sois glorifié. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, eh bien, je vous rappelle simplement le WhatsApp de demain soir pour le partage de nos principaux sujets de prière, donc, et aussi les plus urgents, sachant que c'est probablement le dernier WhatsApp du mercredi soir, puisque, je vous le rappelle, normalement, la semaine prochaine, on aurait notre réunion de prière ici même. Et puis aussi, la prédication avec un témoignage, de beaux témoignages, vendredi soir, et ceci encore sur notre site. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. Amen.